Europe 1, près de chez vous.
Avec aujourd'hui, du côté de Briançon, Arnaud Murgia. Bonjour Arnaud Murgia.
Bonjour Thierry.
Conseiller départemental de Briançon, président du CAE, candidat au municipal de Briançon en attente du deuxième tour. On en dira un mot tout à l'heure. Quel bilan depuis un mois de confinement sur Briançon, sur votre canton ?
Un bilan humainement, socialement difficile, naturellement, avec des situations de détresse humaine. On a, il y a quelques jours, perdu une figure de notre ville, du monde sportif, Gilbert Bonchastel, auquel je pense, et puis une situation naturellement de détresse personnelle, individuelle pour nos entreprises. Je pense naturellement à tout le secteur touristique, mais pas que, aux artisans, qui sont dans une situation extrêmement difficile, d'inquiétude, qui ne savent pas encore quand ils vont pouvoir redémarrer, et je crois que c'est à eux qu'il faudra qu'on apporte le plus de soutien. C'est ce qu'on essaie de faire avec le département, la région et bien entendu les mesures de l'État, mais demain aussi une espérance et des solutions.
Est-ce que, comme une majorité de Français, vous êtes dubitatif sur la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement ? Parmi les grandes démocraties occidentales, il faut savoir que l'exécutif français est l'un des plus décriés par ses citoyens.
On a la chance justement d'être une démocratie, ce qui veut dire qu'il y a un Parlement qui a un devoir de contrôle de l'action du gouvernement. Et dans ce Parlement, il y a une majorité, il y a des oppositions. Je crois que ce travail-là, il viendra après. Aujourd'hui, on doit être dans une posture de solidarité, de responsabilité, de dignité. Et je crois que nous, responsables politiques, on doit justement faire preuve peut-être plus que jamais d'humilité. Donc écoutez, pour l'instant, l'heure est à la bataille contre cette maladie invisible et surtout pour le soutien à toutes les personnes touchées, pour le soutien de personnel soignant, pour le soutien demain à notre économie. C'est ce que, dans les responsabilités qui sont les miennes, je m'emploie à faire. Demain, il sera bien temps de tirer toutes les leçons de tout cela.
Comme tout à chacun, je pense que vous avez une position pour le masque. Il faut savoir que cette doctrine sur le port du masque, qui pour l'instant, au niveau de l'exécutif, reste on ne peut plus flou. Vous en pensez quoi, vous ?
Je suis pas médecin, j'ai une doctrine de bon sens. Je pense qu'il faut des masques, puisque ça semble protéger, et je pense surtout qu'il faut des masques réutilisables, ce qui me semble être la manière la plus simple. En tout cas, pour la population hors personnel soignant, bien entendu, qui utilise des masques très spécifiques. Donc je crois que c'est là-dedans qu'il faut qu'on avance. Il y a une réflexion qu'on peut cela dire avoir, ou en tout cas un état de fait. Nous, on va avec le département faire procéder à la commande, à la création de masques, et on va, sans dévoiler trop de choses, essayer d'en faire aussi produire dans les Hautes-Alpes. On s'aperçoit, cela dit, que notre département, comme l'ensemble de notre pays, de tous nos territoires, ont quelque part délaissé leurs moyens de production. Il y a aujourd'hui plus beaucoup d'ateliers, et je crois que c'est des questions sur l'ensemble de la production française qu'il faudra qu'on se pose dans les années à venir, parce que ça en dit long sur la manière dont depuis 20 ans, 30 ans, on a laissé quelque part se détériorer une partie de la production dans ce pays.
Un des sujets qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, c'est évidemment le début du déconfinement prévu pour le 11 mai, avec notamment la reprise des cours dans les écoles, les collèges, les lycées, sujet qui divise et qui est loin de faire l'unanimité. À ce sujet, le département vient de voter contre la suppression de 3 postes RASED à Gap, Briançon, Embrun. On peut sincèrement penser d'ailleurs que le calendrier de la carte scolaire n'était pas très judicieux, hein, suppression de 3 postes spécialisés dédiés aux élèves en difficulté, alors que nous sommes dans une période où l'école est à l'arrêt et va essayer de se donner un nouveau souffle.
Oui, effectivement, je ne vais pas faire de polémique là-dessus, surtout dans la période, mais c'était une décision qui était purement inappropriée. On ne pouvait pas, à Briançon, à Orensfine, supprimer un poste justement dédié aux enfants en difficulté, alors que on sait très bien que il y aura un constat à faire qui est celui d'une inégalité entre les enfants qui ont des parents à la maison qui peuvent les aider à faire leurs devoirs, à leur faire leurs cours, et ceux qui n'ont qu'un seul parent, ceux qui ont des parents qui travaillent, qui n'ont pas le temps, etc., etc. Ça me pousse d'ailleurs à vous dire que, au-delà de cette polémique sur la carte scolaire, et je remercie mes collègues élus du département qui se sont mobilisés pour que on aille sur un vote contre tout cela, mais on devra avoir une vraie réflexion cet été sur les mesures de soutien scolaire pour rattraper tout cela. Et moi, je suis extrêmement favorable à ce que, au niveau des écoles, des collèges et bien entendu de nos lycées, on réfléchisse à tous les moyens pour apporter une aide personnalisée aux familles et aux enfants qui auront, pour certains, pris du retard.
Un avis, hein, personnel sur cette reprise du 11 mai. On est là aussi visiblement dans le flou artistique pour le moment, hein, et l'éducation nationale peine à donner un cadre et à lancer ses directives.
Oui, tout à fait. Moi, écoutez, je comprends en tout cas la peur, l'angoisse, les incertitudes des familles. Quand on a un petit ou une petite, on a envie de les protéger. C'est normal et c'est naturel. Ce que je crois, cela dit, d'une part, on a de la chance dans les Hautes-Alpes. On a un système éducatif de grande qualité, des classes qui sont parfois moins bondé que dans certains autres départements. Et on a un personnel éducatif d'une extrême grande qualité auquel je veux rendre hommage avec de beaux établissements, que ce soit dans les écoles, dans les collèges ou dans nos lycées. Et je sais qu'on pourra compter sur eux pour accompagner la mise en place de tout cela. La deuxième chose, c'est que je crois effectivement que la rentrée, elle doit être progressive. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas se priver non plus d'un peu de souplesse et pourquoi pas de continuer à rendre possible pour les familles qui le souhaitent de l'enseignement à distance. On a vu finalement que, en tout cas, dans certains cas, ça fonctionnait bien. Nous, on avait quelque part anticipé depuis 3 ans avec un plan d'équipement en tablette de certains de nos collèges, dont le collège des Garcins à Briançon. Je crois que, si vous voulez, la leçon aussi de cette crise dans tous les domaines, c'est qu'il faudra changer, plus rien ne sera comme avant, donc autant tirer les leçons dès maintenant.
Un mot sur quelques mesures solidaires hein, prises par le département, notamment une aide très concrète pour les producteurs locaux avec l'achat de la surproduction.
Oui, écoutez, on a été à l'initiative de tout cela avec Patrick Ricou, l'agence Yvan Chex, que je veux saluer dans leur travail quotidien, et on s'est posé 2 questions. D'une part, dès le début de la crise, on s'est dit, finalement, le confinement fait que les gens sortent très peu et quasiment leur seule sortie, c'est pour aller au supermarché faire les courses. Donc, il fallait dans un premier temps réfléchir, et on a fait un vrai travail avec la grande distribution qui ont joué le jeu partout, et il faut le dire, pour ouvrir des stands aux producteurs locaux, que ça soit devant les supermarchés ou que ça soit en libérant des gondoles dans certains étals. Et ça, c'était la première des choses. La deuxième, c'est qu'on s'est rendu compte que paradoxalement, il y avait des surplus de stock parfois, parce que quand vous avez de l'agneau, quand vous avez du porc, il faut le manger. Et vous avez bien entendu un certain nombre de nos producteurs qui avaient plus de filières de distribution, qui en avaient moins pour ceux qui travaillaient qu'avec les restaurations, pour ceux qui travaillaient qu'avec le petit commerce de détail. Et donc, on a eu l'idée de se dire, achetons ce surplus de stock. Ça permet de soutenir nos producteurs locaux dans cette période difficile et de leur apporter un peu de chiffre d'affaires. Et allons le donner à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les banques alimentaires, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, etc. C'est une démarche qui a démarré, qui s'élève à hauteur de 15 000 euros par semaine de la part du département des Hautes-Alpes. Je crois que c'est une mesure gagnant-gagnant et qui soutiendra à la fois la solidarité dans cette période difficile, mais aussi notre économie agricole locale.
Arnaud Murgia, un sujet qui vous tient à cœur hein, dans votre mission du CAIE, le gouvernement vient de revoir les décisions prises au début du confinement au sujet des délais d'instruction des permis de construire et déclaration de travaux.
Oui, c'est un sujet qui peut paraître technique, mais qui est en réalité extrêmement important. En réalité, pour l'expliquer simplement, on a possibilité, si vous voulez, de geler l'instruction des permis de construire jusqu'au 25 mai. Le seul problème, c'est que dans un département alpin comme le nôtre, si nous faisons cela, ça veut dire que des permis de construire qui seraient en instruction à l'heure où on parle et qui pourraient être validés en août, ça va décaler la validation de ces permis au mois d'octobre, voire début novembre. Or, on sait que dans nos départements alpins, on n'entame pas de chantier en novembre, en décembre à cause des aléas climatiques. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on ne continue pas à instruire, et c'est pour ça que j'adresse ce message aux communes, aux services d'instruction, aux intercommunalités et bien entendu aux services de l'État, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'en réalité, on ne va pas avoir un blanc de 2 mois dans la construction, mais ça va nous amener, nous, à avril prochain. C'est-à-dire qu'on va faire une année blanche sur tout ce qui est nouvelle construction. Et moi, je pense à tous nos artisans, aux menuisiers, aux plombiers, etc., qui n'auront pas de travail dans des maisons individuelles, dans des chalets, dans des chantiers plus généralement. À l'automne prochain, on est un département dans lequel il y a beaucoup de plus réactifs, dans lequel il y a beaucoup de petites entreprises. Les décisions que nous allons prendre maintenant impacteront fortement la suite. C'est pour ça que j'ai demandé à toute mon équipe au CAIE d'être au plus près des communes pour les aider s'il le faut, afin que l'instruction puisse continuer.
Oui, ce sont les dossiers des particuliers qui sont les plus importants, car ce sont eux qui font le plus intervenir les petits artisans.
Tout à fait.
Il faut que les mairies aussi rouvrent donc leurs services d'urbanisme. J'entendais dernièrement les notaires expliquer que c'était compliqué pour eux d'avoir les documents nécessaires pour leurs actes, comme par exemple le cadastre. Donc il faut effectivement que les mairies se remettent au travail physiquement.
Alors déjà, il faut saluer un certain nombre de communes qui n'ont pas cessé de travailler, qui s'organisent en télétravail. C'est très compliqué pour tout le monde. Il faut surtout pas à la fois sous-estimer le nécessaire respect des conditions sanitaires pour l'ensemble des agents municipaux, intercommunaux, départementaux et pour les services de l'État. Mais en tout cas, il y a une vraie urgence, une vraie nécessité à s'adapter. J'espère que tout le monde va arriver à le faire parce que, comme vous l'avez compris, il y a une importance absolument stratégique si on veut pas un impact extrêmement fort pour notre économie.
Un mot pour finir avec les municipales, bien sûr. Là aussi, on est dans le flou artistique. Je vous propose, Arnaud Murgia, d'écouter Édouard Philippe. C'était dimanche soir.
Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je ne sais pas si les élections pourront se tenir à la fin du mois de juin. Peut-être, mais je ne le sais pas. Le 23 mai, collectivement, nous saurons prendre cette décision. Et là, de deux choses l'une. Soit elles peuvent se tenir à la fin du mois de juin et elles se tiennent, soit elles ne peuvent pas se tenir à la fin du mois de juin et nous devons collectivement, avec le Parlement, trouver les nouvelles modalités d'organisation de ces élections. Par définition, après les vacances d'été. Ça, on ne va pas organiser le deuxième tour des élections le 15 août. Personne ne l'envisage. Donc ça veut dire après les vacances d'été, après la période du mois d'août. Est-ce que ce serait septembre, octobre ou plus tard ? J'ai constaté en les écoutant que beaucoup de responsables politiques avaient des visions différentes sur le sujet. Certains pensent que ça doit être le plus tôt possible, quoi qu'il arrive, enfin, sous condition de sécurité sanitaire, bien entendu, hein, mais le plus tôt possible pour permettre que la vie démocratique, la vie locale puisse reprendre, que les décisions d'investissement puissent être prises, et c'est d'excellents arguments. Certains disent on ne pourra pas en septembre ou en octobre organiser une campagne dans de bonnes conditions compte tenu des circonstances. Il vaut peut-être mieux repousser plus tard. Aujourd'hui, il est trop tôt pour prendre cette décision. Le 23 mai, nous ferons une proposition, le Parlement en débattra, et je suggère que nous en restions à la loi, toute la loi, rien que la loi.
Voilà, on va s'empresser d'attendre hein, pour en savoir plus. Visiblement, septembre, ça serait le vœu notamment de François Baroin, le président de l'AMF. Et il y en a même qui espèrent beaucoup plus tard, comme Marine Le Pen, qui a carrément proposé mars 2021. Quel est votre avis ?
Écoutez, moi j'espère qu'elles pourront se tenir en juin pour une raison toute simple, pas personnelle, mais parce que ça voudra dire que le pays va mieux et que la crise sanitaire est en voie de résolution.
Et en sachant qu'il va se passer plusieurs mois entre les deux tours, de toute façon, il s'est passé même plusieurs semaines, peut-être pas aller jusqu'à plusieurs mois, est-ce que cela ne fausse pas les résultats de ces municipales ?
Non, je ne le crois pas. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce que je crois en tout cas, c'est que de toute façon, il faudra nous adapter. C'est pareil pour tout le monde. Moi, en tout cas, je crois que le score que nous avons fait au premier tour, et je voudrais remercier les Briançonnais qui ont porté leur confiance sur nous, nous donne en tout cas une responsabilité, c'est celle d'être prêt à travailler pour les Briançonnais et à anticiper l'avenir dans un monde qui a changé. Un petit mot, peut-être, si vous me le permettez juste, oui. D'espoir et de fond. Dans ce monde un peu triste aujourd'hui et si difficile, on a aussi, nous, dans les Hautes-Alpes, à Briançon, des atouts. Je voudrais rappeler que Briançon est une ville climatique, un statut qu'on a obtenu en 1914. Ça fait un siècle qu'on a l'habitude d'accueillir, de soigner des gens, on a l'air le plus pur d'Europe, on a du soleil. Tout ça, dans le monde qui va s'ouvrir, dans lequel les gens, les touristes et la population en particulier sera en recherche de sécurité sanitaire, ce sont des atouts sur lesquels il faudra jouer, qui sont aussi autant d'atouts d'espérer pour construire demain une économie nouvelle, un tourisme nouveau, une manière nouvelle d'exercer nos pratiques et d'accueillir les gens. Moi, vous savez que le deuxième tour se tienne le 21 juin, le 10 septembre, on s'y adaptera, c'est pas si important. Ce qui est important par contre, c'est justement de préparer la suite et de préparer la manière dont on réparera notre société et dont surtout on reconstruira une économie nouvelle, parce que je le redis, on ne pourra plus rien faire comme avant.
Merci Arnaud Murgia, à une prochaine fois.
Merci beaucoup Thierry, et très bonne journée à vous.
Merci.
Protégez-vous.
Oui, merci.
Alpin, près de chez vous.